Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il y a un peu plus de 10 jours, l'église fêtait Notre-Dame de Fatima, l'occasion de faire un coup de pub à un film consacré aux apparitions de Fatima, encore à l'affiche, notamment à Lourdes au cinéma Le Majestic, le 13e jour. Un film américain qui relate de manière authentique le déroulement de ces apparitions, ayant lieu pour l'essentiel en 1917 au Portugal. Des apparitions qui ont eu un retentissement mondial tant le message de la Vierge Marie y fut percutant et précis, et qui font que ces apparitions peuvent être en quelque sorte classées au patrimoine mondial de l'Église catholique. Voilà, pour cette émission, donc le 13e jour à la découverte ou à la redécouverte des apparitions de Notre-Dame de Fatima, je reçois ce matin le frère Luc-Marie Perrier. Vous êtes donc frère Carme de la province de Toulouse, et un peu plus tard dans l'émission, nous rejoindra le producteur de ce film, Hubert de Torcy, qui est donc directeur de Sage Productions. Frère Luc-Marie Perrier, bonjour déjà, je ne vous ai pas dit bonjour.
Bonjour.
Voilà. Au début de cette émission, le propos avec vous, c'était de reparcourir ces apparitions avant de parler du film. Apparition de Fatima, donc je disais en introduction, apparition en 1917, qui ont eu un retentissement considérable. On sait la dévotion évidemment de millions de gens à Notre-Dame de Fatima. Le passage, je crois que c'est 4 millions de pèlerins par an. Et puis le pape Jean-Paul II qui était allé remercier après son attentat, la Vierge de Fatima. Alors dites-nous tout, peut-être pour commencer quelque chose du contexte historique dans lequel ont eu lieu les apparitions, puisque le Portugal à l'époque, ça n'allait pas très fort pour les chrétiens, si on peut dire.
Oui, bon, on est en pleine guerre mondiale, et effectivement, l'anticléricalisme issu un petit peu de la franc-maçonnerie... Et d'un laïcisme dogmatique fait que la religion, opium du peuple, hein, selon la doctrine de Marx, n'est pas bien en vue. Et donc on pourchasse un petit peu cette religion jugée obscurantiste une entrave au progrès. Et donc effectivement, à cette époque-là, l'Église est très mal en point au Portugal. Et c'est dans ce contexte que la Vierge Marie va se manifester à ses enfants, mais qui, eux, dans leur campagne, sont à l'abri et vivent dans la tranquillité et une extrême pauvreté aussi, il faut le dire. Je pense que c'est peut-être pour ça que la Vierge Marie a choisi cet endroit. On est à l'opposé de Moscou. C'est-à-dire que Moscou, c'est l'extrême est de l'Europe. Fatima, c'est l'extrême ouest de l'Europe. Et comme les apparitions vont avoir une dimension qui est à la dimension de la guerre mondiale, donc qui est planétaire, on sent bien que dans son message qui concerne la Russie et le problème du communisme, la Vierge Marie va venir le porter à l'autre extrême de l'Europe.
Alors, Fatima, faut dire un mot aussi, donc c'était un village avec des bergers et les trois voyants, donc je vous laisserai donner leur prénom, donc qui étaient donc des petits bergers eux-mêmes. Voilà, donc vous disiez c'était un peu pas une enclave, mais enfin c'était un village qui était relativement protégé en tout cas de la situation, on va dire, mondiale et particulièrement celle du Portugal.
En rase campagne. En rase campagne, Fatima, c'est un petit bled, et le nom a été donné en fait à cette localité par un prince catholique à l'époque des guerres de religion contre l'islam, et c'est la conversion de l'épouse de ce roi catholique espagnol qui a amené en fait à lui consacrer cette localité en souvenir de sa mémoire lorsqu'elle est morte. Et ce prince catholique, ce roi catholique a voulu donner le nom de son épouse convertie au catholicisme en lui donnant le nom de Fatima. Donc vous voyez déjà d'emblée, c'est pas dit, ça n'apparaîtra pas hein, dans les apparitions de Fatima, mais le fait qu'on a un lieu qui est lié à l'islam, qui est lié aux musulmans, manifeste quelque chose, on sait peut-être pas encore quoi.
Alors, donc les trois petits bergers, donc Hyacinthe, Lucie et François, se promènent donc un jour. On cite tout le temps les apparitions de 1917, mais en fait, il y en a eu trois autres avant. Alors, commençons par celle-là. Ça a commencé donc par les apparitions d'un ange et pas de plusieurs anges, contrairement à ce que j'avais pu comprendre, puisqu'en fait, c'est le même ange à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on sait en fait? Ces bergers se promenaient et puis là, tout d'un coup, ils voient un ange.
Oui, c'est ça.
Et qu'est-ce que dit cet ange?
Il s'est nommé l'ange du Portugal. Et au printemps, elle n'a pas, Lucie, su donner la date exacte, mais au printemps, il se présente et il se manifeste comme l'ange de la paix. Notre-Dame elle-même se dira Notre-Dame de la paix. Et donc les apparitions de Fatima sont vraiment sous le signe de la paix, pour une pacification du monde ici-bas, et aussi pour une pacification des âmes après la mort, hein, dans notre destinée ultime, hein, qui est de participer à la paix de Dieu. Et donc cette paix, si vous voulez, elle est la base et le fondement de toutes les apparitions. Donc je suis l'ange de la paix, hein, dit-il, priez avec moi. Et c'est là au printemps qu'il leur enseigne cette prière que tous les catholiques connaissent et qu'ils répètent et qu'ils récitent très très souvent. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Et cette prière, vous voyez, d'emblée, elle situe cette paix dans le cadre de la rédemption. C'est une prise en charge, en fait, Fatima, du péché du monde, avec le Christ, dans le Christ, à la suite de Notre-Dame, pour à notre tour, derrière le Christ et Notre-Dame, participer à ce salut du monde. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne nous aiment pas. Donc c'est fondamentalement une prière d'intercession pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui n'aiment pas.
Avant qu'on fasse peut-être la suite des apparitions, quelle a été la réaction, il faut en dire un mot, des autorités ecclésiales, comme souvent lors des apparitions, on ne peut pas dire que l'Église est tout de suite... prêter foi au témoignage des petits bergers.
Les apparitions de l'ange sont restées totalement secrètes. Les enfants les ont vécues sans les divulguer, sans les communiquer, parce que elles les ont jetées dans une profonde torpeur. Ça les a abîmés dans le silence d'une contemplation extrêmement profonde. Par contre, les apparitions de la Vierge Marie ont soulevé dans le cœur des enfants, et particulièrement de Jacinthe, un immense enthousiasme communicatif. Et ce qui fait que Jacinthe n'a pas pu garder sa langue, et dès qu'elle est rentrée chez elle, ou à Maudal-Justrel, elle a tout de suite dit à sa maman, j'ai vu une belle dame à la Cova d'Aeria. Alors qu'en 1916, les trois apparitions de l'ange, les enfants les ont gardées secrètes. C'est Lucie qui les a révélées plus tard.
Alors on continue, deuxième apparition de l'ange, puis une troisième. Alors vous pouvez nous dire après à gros traits
la deuxième apparition de l'ange, elle se fait pendant l'été. Les enfants sont en train de jouer sur le puits de l'Arneiro, derrière leur petite la maison de Lucie à Justrel, et l'ange se présente en plein milieu de leur jeu en leur disant que faites-vous ? Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Et de nouveau, il les invite à prier avec eux. Et il dit, de toutes les manières que vous pourrez, offrez un sacrifice en guise de réparation pour les péchés pour lesquels il est offensé et de supplique pour la conversion des pécheurs. C'est étonnant que le ciel intervienne comme ça dans la vie d'enfants de 6, 8 et 13 ans qui sont en train de jouer. Pour les inviter à se pencher sur le drame du monde et d'élever leur prière pour le salut du monde. Ce sont des tout petits enfants. Mais on le sait bien, dès l'âge de raison, on a la porte ouverte sur la transcendance, on a des questions qui se posent dès le petit âge qui sont de nature métaphysique et qui montrent qu'un enfant est tout à fait capable de se lever très 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 haut dans l'expérience de Dieu et la transcendance. Alors en même temps, il y a une pureté dans le cœur de l'enfant, et c'est peut-être pour ça que l'ange et le ciel est venu les trouver là au milieu de leur jeu. Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence. On doit laisser jouer les enfants quand tout va bien, mais quand il y a urgence et qu'on a besoin d'eux, eh bien on va même les sortir de leur jeu.
Alors, c'est pas les seules apparitions où la Vierge Marie s'est manifestée à des enfants ou à des très jeunes filles. On pense évidemment à Lourdes, puisque c'est sur le territoire de Radio Présence, ou à l'île Bouchard en 1947. Alors, il y a une troisième apparition de l'ange avant qu'on parle des apparitions de 1917, qui, cette fois, peut aider tout à chacun, peut-être dans sa manière d'aborder la communion. Donc, où l'ange tient un calice en l'air avec une hostie. Qu'est-ce que voient les enfants exactement ?
Bon, les enfants voient l'ange qui tient dans ses mains un calice et une hostie. L'hostie est au-dessus du calice, perle des gouttes de sang de l'hostie qui tombe dans le calice. L'ange se prosterne, le calice et l'hostie restent suspendus en l'air. Il se prosterne et il récite cette prière que les enfants vont apprendre et que nous connaissons tous. Très sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, blasphèmes, indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré, du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Donc, les apparitions de Fatima, préparées par l'ange, placent tout de suite le décor dans le cadre du mystère eucharistique et du sacrifice du Christ. Et ça, je crois que c'est fondamental au niveau théologique. Marie, elle est ambassadrice du ciel pour mener à son Fils et pour nous incorporer au mystère du Fils sacrifié par amour pour les pécheurs. Il n'y a pas de mariolatrie à Fatima. Vous voyez, on est d'emblée dans le mystère du Christ et tout se passe, tout se situe au cœur du mystère eucharistique et le mystère sacrificiel du Christ.
Alors, si on continue, après il y a donc à partir de mai 1917, le 13 mai 1917, sept apparitions, si je ne me trompe pas, donc de la Vierge Marie. Alors, on va peut-être pas pouvoir les détailler toutes les sept, mais si vous deviez les parcourir rapidement, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure jusqu'au grand miracle sur lequel on reviendra peut-être à la fin. Donc, ces enfants ont eu ces apparitions des anges, ils en ont pas parlé, vous dites. Et puis là, très rapidement, les gens vont commencer à venir par centaines, voire par milliers.
C'est ça. Donc, six apparitions du 13 mai jusqu'au 13 octobre. Il y aura d'autres apparitions plus tard. Hein. Une autre à Pontevedra en 1925 et une autre à Tuy en 1939. 29, pardon. L'épicentre du cycle des six apparitions de 1917, c'est le mois de juillet. C'est l'apparition la plus centrale, la plus importante. C'est autour d'elle que tout s'articule. Le miracle du mois d'octobre, autour de la danse du soleil, sera comme l'authentification, le sceau du cycle des apparitions, pour que tout le monde croit. Effectivement, ce miracle du soleil, 70 000 témoins vont être là pour le constater, croyants et incroyants.
Y compris les journalistes, à ce moment-là,
voilà,
la presse portugaise.
Les journalistes du journal O Século, qui sont venus pour railler, évidemment, cette crédulité des Portugais, et qui vont tous unanimement se convertir. Tous tomber à genoux et demander pardon pour leurs péchés quand le soleil va venir s'écraser et s'effondrer sur la terre. Vraiment, c'est ce grand miracle du soleil. Mais tout ça a authentifié ce qui s'est passé auparavant, et notamment au mois de juillet. Une révélation, une mariophanie qui est grandiose, qu'on a subdivisée en trois étapes, si vous voulez, en trois messages, mais en fait c'est une seule apparition, c'est un seul discours. On a voulu mettre trois parties, qu'on a appelées les trois secrets de Fatima, mais c'est une même révélation unie. Donc la première partie de cette manifestation, c'est la Vierge Marie qui ouvre ses mains, qui pénètre la terre et qui montre l'enfer.
Donc ça, c'est celle donc de juillet 1917.
Juillet 1917.
Voilà, 13 juillet 1917.
13 juillet 1917. La Vierge Marie montre l'enfer et elle demande aux enfants de véhiculer donc son message quand elle le décidera et le leur signifiera pour que les âmes menacées de se perdre soient sauvées. Et elle ajoute que si on ne fait pas ce qu'elle demande, une autre guerre commencera, pire que la première. Hein, c'est une guerre commencée sous le règne de Pie XI, la Deuxième Guerre mondiale. Et si le Saint-Père ne consacre pas la Russie à son cœur immaculé, comme elle le demande, la Russie répandra ses erreurs dans le monde, les bons seront persécutés. Ça, c'est la deuxième partie du message de Fatima. Et la troisième partie, c'est le martyr de l'Église.
Alors peut-être sur cette vision de l'enfer pour ceux qui sont loin de l'Église, rappeler ce qu'est l'enfer, ce qui fait que nous chrétiens nous croyons que l'enfer existe, mais qu'une âme se damne.
Une âme se damne quand elle refuse l'amour et la vérité et qu'elle piétine systématiquement le mouvement de la grâce qui en nous nous ordonne à la vérité et au bien. tout homme, un être dans ce monde, a l'appétence naturelle du vrai et du bien. Mais ce n'est pas un mécanisme, ce n'est pas quelque chose d'automatique, cette ordination au vrai et au bien qui vient de Dieu en nous et qui imprime ce mouvement d'attirance, d'appétence, et requiert notre assentiment, notre oui, notre fiat. Donc il faut se laisser entraîner par le mouvement de la grâce vers l'attraction du vrai et du bien pour que bien nous soyons dans l'union à Dieu qui est la vérité et qui est le bien. Semble-t-il, par l'orgueil, par la convoitise, par le repliement sur nous-mêmes, nous avons la possibilité, graduellement, petit à petit, comme un brouillard qui passe sous la porte et sature l'atmosphère, nous avons la possibilité de suffoquer et d'en venir à faire un pacte avec le mensonge et un pacte avec l'égoïsme et avec la haine et la vengeance. Auquel cas, si dans l'impénitence finale, nous finissons notre existence dans la haine de l'amour et de la lumière, quand nous paraissons devant Dieu, hors du temps, nous sommes fixés en l'état où nous sommes morts. Soit un état de compatibilité avec Dieu, c'est le royaume, soit un état de séparation, c'est l'enfer.
Alors c'est ce qui fait entre autres que les apparitions de Fatima sont parfois pas très, enfin pas le message est parfois pas toujours vulgarisé ou connu, parce que je m'arrête un instant parce que c'est l'enfer aujourd'hui, on en parle pas énormément, ça fait peur. Je crois que deux fois en fait l'Église ne dit pas qu'il y a des gens en enfer. En tout cas là les voyants eux, on a l'impression à regarder le film et puis à lire les messages de Fatima qu'ils y ont vu des damnés en fait.
Bon, déjà on sait qu'il y a des démons, hein, des anges, hein, des créatures déchues. Donc s'il y a des anges en enfer, je vois pourquoi il ne pourrait pas y avoir d'humains. Mais vous avez raison, c'est pas deux fois de dire qu'il y a des humains en enfer. Néanmoins, tous les mystiques, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, le Padre Pio, tous les mystiques attestent qu'il y a des âmes humaines qui sont en enfer.
Donc vous avez parlé de l'enfer, vous avez parlé donc rapidement des trois secrets. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre de ces six apparitions? Donc j'avais dit sept parce qu'en effet on suppose qu'il y en a eu d'autres après. Vous en direz peut-être un mot tout à la fin. Qu'est-ce qu'il faut? On peut pas lire l'intégralité des messages. Hein, on peut renvoyer entre autres au site internet de Notre-Dame de Fatima qui a une version française où sont détaillés les textes de chacune des apparitions. Qu'est-ce que vous ressortiriez comme élément saillant? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête et ce qui aide à éclairer le film?
Bon, ben l'enfer en fait c'est pas ce qui est fondamental à Fatima. Ce qui est fondamental, c'est l'intervention du ciel pour que les âmes ne tombent pas en enfer. Donc le mobile de Fatima, c'est la miséricorde, c'est le salut des âmes et la pacification du monde qui lui est étroitement lié. Parce que si nous sommes unis à Dieu dans ce monde, dans l'amour et la vérité, c'est la paix. C'est la paix. Et s'il y a la guerre dans le monde, c'est parce que justement nous ne laissons pas l'Esprit Saint travailler nos cœurs et répandre cette paix et cette lumière tout autour de nous.
Pour finir, le miracle du soleil, vous en avez dit un mot. Donc lors de la dernière apparition, la Vierge avait dit qu'il y aurait un grand signe. Donc il y a, je crois, 60 000 personnes qui se pressent à ce moment-là à l'apparition. Dans le film, en tout cas, je ne sais pas si c'est tout à fait la réalité, mais on imagine que c'est le cas. Les parents tremblent en se disant « Mon Dieu, s'il n'y a pas ce miracle annoncé, cette fois, nos enfants vont définitivement se faire conspuer ou lyncher par la foule. » Et donc il y a ce miracle du soleil, vous le disiez, qui a été vu y compris par des journalistes, grands journalistes de l'époque, qui se sont convertis. Miracle du soleil, vraiment très très impressionnant. On imagine qu'il y a même presque des photos à l'appui, non?
Puisque... Oui, c'est cosmique. C'est-à-dire que d'abord il a plu depuis 3 jours, averse. Tout le monde est trempé malgré les parapluies. Le sol est totalement détrempé. Et au moment de midi de l'apparition, le ciel se dégage brutalement. Le ciel apparaît dans l'atmosphère. Et tout d'un coup, il est visible, sans éblouissement, comme une plaque d'argent. Il se met à tourner sur lui-même, à répandre des arcs-en-ciel de couleurs sur la surface du sol et sur les habits, sur les personnes. Ensuite, il se déplace de gauche à droite et de droite à gauche, c'est-à-dire qu'il sort carrément de son orbite. Et puis la phase finale du miracle du soleil, c'est-à-dire qu'il se décroche, il tombe sur la Terre. C'est une vision d'Apocalypse. C'est là, dans la finale du miracle du soleil, que tous les gens hurlent, tombent à genoux et demandent pardon pour leurs péchés.
On fait tout de suite une première pause musicale et puis après on aura Hubert de Torcy, donc le directeur de la société de production du visuel, donc qui a diffusé ce film, société de production dans Sage Prod qui a aussi diffusé en France, entre autres, le film Les Christéros.
Qui s'ira Immaculada Conception? Saira Immaculada Conception, Marie dans le creux des rochers, Vierge Immaculée, rayonnante des lumières, tu t'es adressée à une enfant, toi Notre-Dame.
Voilà, ce matin donc une émission Vivante Église, le 13e jour à la découverte ou à la redécouverte donc de Notre-Dame de Fatima. Ce matin en plateau donc le frère Luc-Marie Perrier, frère Carme de la province de Toulouse, et au téléphone qui nous a rejoint Hubert de Torcy, qui est donc le directeur de Sage Prod qui a diffusé ce film en France. Bonjour Hubert.
Bonjour Emmanuel.
Alors, le frère Luc-Marie Paris nous a dégrossi sur Notre-Dame de Fatima, ou en tout cas nous a aidé à nous rappeler ce qui a constitué la teneur de cette apparition. Donc ce film, le 13e jour, je le disais en introduction, est encore à l'affiche, encore dans quelques cinémas, entre autres au Majestic à Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la genèse de ce film? Des films sur Notre-Dame de Fatima, il y en a eu, semble-t-il, un certain nombre, mais celui-là, c'est peut-être un des premiers qui soit réellement professionnel. Qui est l'auteur de ce film et qui il y a derrière ce projet de film?
Alors de fait, oui, il y a eu d'autres expériences sur Fatima des films qui commencent à dater pas mal maintenant. C'est le dernier film qui a été fait sur les apparitions elles-mêmes, la dernière fiction en tout cas, puisqu'elle date de 2009. Ce film a été réalisé par deux frères, Ian et Dominique Higgins, qui sont des frères anglais, ils sont d'origine britannique. Ils sont lancés dans cette aventure à la demande d'un producteur, en fait, qui était très dévot de notre femme de Fatima, et qui les avait approchés parce que c'est des garçons qui ont un style, ils sont spécialistes des effets spéciaux, et ils cherchaient donc des réalisateurs capables de rendre justement l'aspect apparitionnaire, hein, enfin, je dirais le miracle du soleil, enfin toutes les visions là que vous avez évoquées tout à l'heure, de les rendre de manière cinématographique sans faire trop kitsch. C'est toujours un peu la difficulté, hein, quand il s'agit de rendre à l'écran des visions. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont été choisis, et eux-mêmes en fait clairement ils sont catholiques et ils avaient le désir de mettre leur art au service de ce film. C'est aussi le seul film, je dirais, qui ait été réalisé après que le troisième secret de Fatima ait été rendu public par l'Église en l'an 2000. Hein, les autres films n'avaient pas toute l'histoire. Là, les réalisateurs ont pu faire avec ce troisième secret révélé par Ratzinger et Jean-Paul II à l'occasion de sa venue en l'an 2000 à Fatima.
Alors,
donc il y a tous les éléments, quoi. Enfin, voilà, c'est le film qui raconte du coup tout entre le 13 mai et le 13 octobre 1917.
C'est ça, donc il se concentre donc sur les apparitions de la Vierge Marie, qui ne fait pas mention des apparitions des anges. Frère Luc-Marie Perrier, vous nous avez parlé des trois secrets, peut-être qu'il faut dire un mot du troisième secret. On ne va pas faire l'émission là-dessus, ça va même donner lieu à des films, hein, M ou le troisième secret. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires autour de ce troisième secret. Vous pouvez nous redire, après, ce qu'est la teneur de ce message. Il a donc été divulgué en l'an 2000, peut-être un mot sur la polémique qui entoure ce secret.
Bon, le troisième secret, comme a dit Hubert... Il a été révélé par Ratzinger dans son intégralité. C'est la persécution universelle de l'Église et le Saint-Père aux premières loges de cette persécution. C'est pour ça que Jean-Paul II, quand il a subi cet attentat le 13 mai 1981, il a tout de suite compris que c'était la réalisation de la prophétie du 13 mai 1917. Et il a fait sertir la balle qu'il a transpercée dans la couronne de Notre-Dame de Fatima. Alors après, il y a toujours l'histoire, le complot, on nous cache des choses, le Vatican est aux mains de la franc-maçonnerie, et on glose, et on glose, et on glose, alors que sur Lucie, avant de mourir, a bien dit que tout avait été, transmis tel qu'elle l'avait écrit, quoi.
Hubert de Torcy, comment vous avez entendu parler de ce film? C'est un peu peut-être les secrets de fabrication, peut-être que vous ne pouvez pas en parler de Sage Prod. Et donc je disais que c'est vous qui avez diffusé, enfin c'est Sage Production qui a diffusé le film Les Christeros, là récemment La Résurrection du Christ, qui était à l'affiche, qui est encore à l'affiche. Je sais pas, vous allez aux États-Unis régulièrement et puis vous piochez dans ce qu'on vous propose. Comment vous avez entendu parler de ce film?
Alors c'est vrai que j'y vais régulièrement et ça m'arrive du coup de ramener des films à l'issue de ces voyages, mais non, c'est essentiellement par Internet. En fait, j'ai de la chance d'avoir un réseau de personnes qui, quand ils tombent sur quelque chose d'intéressant, m'envoient un mail en me disant « Est-ce que tu as vu ça ?» Donc voilà, d'abord, ça a été comme ça, un lien vers une bande-annonce pour ce film-là. Je me suis dit « Bah tiens, dis donc, et voilà quelque chose d'esthétiquement original. » Et puis j'ai cherché à trouver quel était le vendeur de ce film. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis tombé sur... une société espagnole qui représentait le producteur, et donc avec qui j'ai négocié donc l'achat des droits pour la diffusion et la distribution du film en France. Voilà, c'est tout simple. Et après ça, il y a tout le travail de doublage, de traduction, et puis ensuite de communication autour de ce film, sachant que c'était un film que je savais d'emblée, en raison de sa facture un peu particulière, pas très grand public. Voilà, et en même temps, je savais aussi que c'est un thème qui intéresse beaucoup beaucoup les catholiques, hein, ce thème des apparitions de Fatima. Donc voilà, je me suis lancé dans cette aventure.
Alors la particularité aussi, donc c'est un film qui a été tourné sur les lieux des apparitions, si j'ai bien compris, donc à Fatima même. Qu'est-ce que vous pouvez dire, évidemment, sans trop déflorer le film? On y voit donc le Portugal, enfin, j'imagine qu'il y a eu quand même des reconstitutions, et puis après, il y a en effet beaucoup de... alors vous qui êtes un spécialiste de cinéma, vous allez m'aider, mais il y a beaucoup de gros plans, beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup d'espèces de mise en situation un peu particulière. C'est un film, en effet, un peu particulier.
Ouais, donc ça a été tourné sur les lieux mêmes, on va dire, pas sur les lieux mêmes, parce que sur les lieux mêmes, maintenant, il y a une magnifique... Enfin, il y a un grand sanctuaire, hein, donc... voilà, enfin, en tout cas dans la campagne autour de Fatima, ça a été tourné là, avec des enfants qui, ceux qui jouent les Jacinthe, François et Lucie sont des enfants qui ont été récupérés, auditionnés en fait, et qui étaient à l'école dans cette région, et c'est comme ça qu'ils ont été choisis. Ensuite, au niveau donc du style cinématographique, on est dans du noir et blanc, c'est un film qui date de 2009, là encore, je dirais qui profite en fait de tout ce que l'on sait faire aujourd'hui en matière d'effets spéciaux pour rendre de manière assez impressionnante ce miracle du soleil, cette vision des enfers, ce fameux troisième secret où on voit l'homme en blanc se faire tirer dessus, etc. Enfin bref, toutes les visions sont vraiment rendues de manière très très forte par le biais de ces effets spéciaux. Et pour le reste, on est dans du cinéma impressionniste, je dirais, vous savez, un peu comme dans les années 50, en noir et blanc, avec une très grande sobriété. Chaque photo est très belle, vraiment très belle, avec une très grande un décor très épuré, une très grande sobriété, quoi. Hein. C'est joué un peu à la manière de ces films anciens, bah, probablement pour restituer un peu dans un contexte historique ces apparitions, avec donc du noir et blanc tout le temps, sauf justement quand le surnaturel survient, la couleur apparaît. Hein, ce qui donne un peu l'idée que le vrai monde, le monde réel, c'est justement le monde surnaturel. Voilà, c'est une idée en tout cas qui m'a beaucoup plu.
Est-ce qu'il y a d'autres particularités qu'il faut souligner, d'autres choix des réalisateurs, entre autres le fait donc qu'il n'y ait pas les apparitions de l'ange, donc l'ange de la paix, l'ange du Portugal. Vous dites frère Luc-Marie Perrier qu'on suppose que c'est le Saint-Michel Archange aussi. Est-ce qu'il y a des choix, on va dire, éditoriaux qui ont été faits par rapport à ces apparitions?
En fait, le choix qui a été fait par les réalisateurs, c'est de, on va dire, de circonscrire le récit des apparitions entre deux dates, le 13 mai 1917 et le 13 octobre 1917. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas les apparitions qui précèdent, et qui sont les apparitions effectivement de l'ange, et puis il n'y a pas non plus tout ce qui peut être toute la gnose ou la glose qu'il y a pu y avoir suite aux apparitions derrière. C'est-à-dire que ça s'arrête. Le film n'interprète pas les messages, hein, il les donne. Et puis voilà, il dit pas, il rentre pas dans un débat comme le fait Pierre Barnaillard dans son documentaire sur M. le Troisième Secret. On est vraiment dans le déroulé des événements à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que ça, c'est l'autre partie pris qu'ont fait les réalisateurs. C'est-à-dire que tous les événements sont vus du point de vue des enfants. Hein. Tout est filmé en quelque sorte à hauteur d'enfant. C'est la réaction des enfants face à cet extraordinaire, à cette inouïe des apparitions de Marie. Et puis la réaction de leur entourage proche, notamment leur famille. Et puis, bien entendu, le gouvernement de l'époque, très anticlérical, qui voyait d'un très mauvais œil survenir ces foules qui commençaient à s'agglutiner pour assister aux apparitions. Et donc, la persécution qu'ont subi les enfants, que j'ignorais moi-même, en fait, avant de voir ce film-là, je ne savais pas tout ce qu'ils avaient pu subir comme menace à cette occasion. Donc voilà, donc le film, il se concentre vraiment sur cette période de temps extrêmement réduite, et il nous raconte ce qui se passe.
Frère Luc-Marie Perrier, est-ce que vous avez découvert des choses qui connaissez bien, puisque vous m'avez dit même que votre nom de vie religieuse, c'est Frère Luc-Marie Perrier du Cœur Immaculé, et donc vous êtes, semble-t-il, un spécialiste, enfin vous connaissez très bien les apparitions de Fatima. Est-ce que vous avez découvert des choses en regardant ce film, et si oui, quoi, ou alors est-ce que ça a mis en relief certains aspects des apparitions?
Non, je suis d'accord avec ce que dit Hubert, le noir et blanc nous plonge en 1917. Et la couleur des apparitions nous immerge effectivement dans ce monde surnaturel. Après, sur le contenu, non, évidemment, j'ai rien appris. Je dirais que c'est peut-être même le minimum. Le film nous présente le minimum à connaître. Mais c'est 10% dans le film qui nous est vraiment communiqué. Avec des petites erreurs. Par exemple, le 13 juillet, la Vierge Marie parle du communisme. Elle n'en a jamais parlé. Elle dit que si on ne fait pas ce qu'elle demande, c'est-à-dire de consacrer la Russie à son cœur immaculé de Marie, à son cœur immaculé, La Russie répandra ses erreurs dans le monde, les nations seront anéanties, et c'est pour ça qu'elle demande la consécration de la Russie. Et je crois que c'est très important parce que l'ange, il se révèle comme l'ange du Portugal. La Vierge Marie, elle demande la consécration de la Russie. Elle annonce l'anéantissement des nations. Ça veut dire que les nations, dans ce mystère de la communion mondiale, elles ont une place et un rôle essentiel. Donc peut-être même que dans Fatima, on a une critique du mondialisme qui dissout la particularité des nations. Elles ont été dissolues dans l'empire soviétique, mais on peut penser qu'elles continuent d'être dissolues, les nations, dans le modèle unificateur, enfin pas unificateur, mais le modèle qui est univoque du mondialisme. Et or, Fatima fonde l'équilibre mondial sur les nations, qui ont chacune leur identité et leur rôle à jouer au milieu du monde, dans le concert des nations. Et ça, dans le film, malheureusement, on dit que bon, elle annonce le communisme, mais elle annonce les erreurs de la Russie.
Alors Hubert de Torcy, vous voyez, on a un spécialiste, hein, il va même jusqu'à critiquer le film. En tout cas, moi j'avais juste une question, l'objet c'est pas...
Il a raison, de fait, sur les 10%, je crois qu'il a raison. Hein, ouais. Enfin, moi je suis pour le coup pas un spécialiste.
On peut pas tout dire en même temps dans un film.
Et voilà, le film ne dit pas tout, c'est sûr. Ouais.
Moi j'avais une question quand même, peut-être, enfin, ou une mise en garde. Lorsqu'on regarde le film, il y a un passage comme ça où la Vierge Marie, enfin, il est fait état de la Vierge qui parle en fait de la menace de la Seconde Guerre mondiale. Et la manière dont c'est exprimé dans le film peut laisser entendre que si le monde se convertit pas, c'est Dieu qui va punir le monde par cette Seconde Guerre mondiale. En tout cas, c'est peut-être la traduction française. Est-ce que vous pouvez peut-être apporter une précision? Évidemment, Dieu n'a pas commandé le nazisme ou la Seconde Guerre mondiale.
Oui, je pense pas que ce soit ça qu'on comprenne quand même. Enfin, on voit les images, effectivement, à ce moment-là qu'elle évoque ça, on voit pour le coup des images de la Deuxième Guerre mondiale qui nous sont familières. Mais en même temps, moi ça fait partie des fruits du film, hein, en tout cas, je trouve, c'est que il y a une vraie gravité qui émane du film. C'est-à-dire que on se rend compte que en fait c'est sérieux, quoi. Et c'est grave. Quand la Vierge Marie apparaît et qu'elle prend la peine de dire quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave qui est en jeu, qui est de l'ordre du salut, vraiment, de chacun d'entre nous, de chaque homme. Moi j'ai été frappé, par exemple, par cette apparition. Il y a quand même un ange qui apparaît à un moment, puisque il y a cette histoire de l'ange qui menace avec son épée de feu de détruire la terre ou d'anéantir la terre, et c'est la main de la Vierge qui arrête le bras de l'ange. Donc il y a une sorte de courroux quand même, de courroux du ciel face à l'ensemble des péchés que les hommes ne cessent de commettre. Voilà, moi qui m'a saisi en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde de béni oui où tout se passe bien, on ira tous au paradis. Il y a quand même une vraie guerre. La question du salut est une question grave. Voilà, moi c'est ce que j'ai retiré du visionnage du film. Alors, je ne sais pas si le père peut confirmer ou pas.
Frère Luc-Marie Perrier, sur cet aspect, alors évidemment, si on y prête foi, ou en tout cas, en l'occurrence, semble-t-il, c'est arrivé en plus, puisque un certain nombre de personnes ont été témoins, y compris des gens qui n'étaient pas croyants au moment de la dernière apparition. Donc la gravité, enfin voilà, quand Marie dit quelque chose, quand Dieu dit quelque chose, c'est important. Mais sur cette histoire de l'ange, enfin, il y a deux, trois moments où on peut avoir l'impression comme ça que Dieu, en effet, menace les hommes. Comment est-ce qu'il faut le comprendre, ça?
Dieu nous appelle à l'amour, à la vérité. Si de notre liberté nous choisissons le mensonge et la haine, inévitablement nous nous cognons frontalement contre Dieu. Et nous subissons en retour, hein, par répercussion, inévitablement, parce que nous sommes non miscibles avec l'amour et la vérité, parce qu'on a choisi la haine et le mensonge. Donc forcément, Dieu devient pour nous quelqu'un qui nous est et qui nous devient insupportable. Et donc notre péché a pour conséquence de nous détruire.
Et comment comprendre du coup cet ange qui à un moment comme ça semble menacer de son épée le monde en criant pénitence, pénitence, on
le voit. C'est-à-dire que l'ange, c'est le troisième secret de Fatima en fait, hein, l'ange qui tient son épée comme ça brandie et qui crie pénitence, 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 manifeste que on peut pas pécher impunément comme ça et penser que la miséricorde va tout arranger sans qu'on se repente et sans qu'on se convertisse véritablement et qu'on renonce courageusement à notre péché. Alors, la miséricorde de Dieu, à travers le Christ, à travers la Vierge Marie, et là justement pour nous donner toujours ce délai supplémentaire, cette patience de Dieu dont nous avons besoin pour faire le choix décisif qui ouvre la porte à Dieu. Mais si on refuse d'ouvrir cette porte, eh ben on se cogne frontalement contre Dieu, et c'est l'enfer et c'est la damnation. Et nous ne sommes pas les seuls responsables de cette damnation. On peut dire que indirectement Dieu en est aussi le responsable. Parce qu'il ne saurait être haine quand il est amour, il ne saurait être mensonge quand il est vérité. Et donc ce qu'il est va avoir pour effet de nous rejeter de lui, de nous rejeter de sa face, mais pas parce que arbitrairement il en prend la décision, mais parce que nous sommes déterminés là-dedans.
Alors on va faire une deuxième pause musicale et puis vous restez avec nous, vous nous faites l'amitié de rester un peu plus longtemps, Hubert de Torcy, donc pour nous dire quel a été le succès de ce film, ses répercussions, et puis peut-être creuser encore davantage l'actualité du message de Fatima et cette dévotion au cœur immaculé pour ce film particulier et qui pourtant dit des choses aussi profondes.
Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, donc, cette émission, le 13e jour, à la découverte ou à la redécouverte des apparitions de Notre-Dame de Fatima, avec le frère Luc-Marie Perrier, du Cœur Immaculé de Marie, si je me trompe pas, frère Carme de la province de Toulouse, et là, je dis si je me trompe pas, c'est que il y a certains auditeurs qui me reprochent de dire souvent ça, mais là, il valait mieux prendre quelques précautions, ce que vous me l'avez dit juste avant le début de l'émission, et Hubert de Torcy, donc, qui est directeur de Sage Prod, qui a donc diffusé ce film en France. Alors, Hubert de Torcy, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le succès de ce film, le 13e jour? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez eu comme retour presse, spectateur et croyant et incroyant? Son succès en France, le retour des spectateurs?
Un grand succès, parce que c'est un film, comme je l'ai dit, un peu particulier au niveau formel, et donc et puis en plus très catholique, hein, je dirais que c'est... Il ne met pas du tout en doute, bien entendu, les apparitions, puisqu'il nous donne de les voir comme les voyants ont eu. Donc c'est un film extrêmement engagé hein, sur le plan de la foi. Et du coup, je dirais les salles étaient plutôt n'étaient pas très favorables au fait de le projeter comme un film, c'est-à-dire en gardant à l'affiche toute la semaine. Le seul qui l'a fait de manière régulière, bien sûr, c'est le cinéma Majestic à Lourdes, et puis un cinéma à Paris, qui a été bluffé parce que il avait accepté de prendre le film en exclusivité pendant 2 semaines, et pendant 4 semaines, il a quasiment été obligé de dédoubler ses salles pour pouvoir accueillir tous les... parce que c'était des petites salles, c'était un tout petit cinéma de quartier, parce qu'il y avait tellement d'afflux de spectateurs. Alors, cela étant, les résultats restent modestes, hein, puisqu'on doit être à quelque chose comme 11 ou 12 000 entrées en France, aujourd'hui, pour ce film. Mais c'était... enfin, voilà, c'est ce que j'avais anticipé pour ce film-là, sachant que donc on a eu un mode de distribution extrêmement alternatif, on va dire, puisque c'est un film qui tourne aujourd'hui au cas par cas pour une ou deux soirées organisées par des paroisses qui vont se mettre d'accord avec leur salle de cinéma en disant ben voilà, je voudrais organiser une soirée autour de ce film avec un débat derrière sur justement les apparitions de Maria Fatima. Est-ce que c'est possible de le programmer à telle date? Et dans ces cas-là, voilà, le cinéma nous le commande, et puis on fait une soirée où il y aura peut-être 150 personnes ce soir-là. Donc c'est comme ça que je dirais le réservoir s'est rempli. Et pour atteindre à peu près 10 000 entrées.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme entrée spectateur aux États-Unis? Est-ce que le film a été diffusé ailleurs dans le monde qu'en France?
Il a été très peu. Alors il a eu une petite sortie aux États-Unis, très modeste. Pareil au Portugal. Je crois que c'est quasiment les deux seuls pays où il soit vraiment sorti. Peut-être en Espagne également. Enfin, c'est pas un film qui a connu un succès retentissant. Essentiellement, je pense, en raison des choix formels qu'ont fait les réalisateurs. Hein.
Est-ce que le producteur que vous êtes a parfois des retours des spectateurs? Est-ce que vous avez des Fioretti du film? Est-ce que le film a vraiment touché? Est-ce que non. Je ne sais pas, ça a été l'occasion de conversion même pour certains ou...
Alors non, j'ai pas de gens qui se soient convertis, qui m'aient écrit après cette conversion en regardant le film. J'espère que ça se produit. Je suis pas sûr que la première chose, le premier réflexe de la personne soit effectivement d'écrire au distributeur du film. Hein. Mais en tout cas, oui, on a eu des retours de spectateurs qui nous ont écrit, qui pour certains n'ont pas aimé, ne sont pas rentrés dans cette esthétique particulière. Pour d'autres, au contraire, qui ont vécu comme une expérience spirituelle en voyant ce film, qui se sont vraiment laissés toucher, rejoindre par l'amour de Dieu, par ce mystère de la souffrance, de la croix de ses enfants, de ses apparitions, voilà, qui ont été nourris dans leur foi, qui ont été nourris, oui, qui ont fait une expérience quasi mystique en voyant ce film. Ça, on a eu de nombreux retours comme ça. Oui.
Frère Luc Marie Perrier, vous connaissez bien les messages de Fatima, vous en parlez peut-être pas régulièrement, mais enfin de temps en temps. C'est vrai que ce qui paraît un peu fou, c'est que si on y prête foi, c'est une étape, c'est un événement extraordinaire et fondamental dans l'histoire de l'Église, mais aussi dans l'histoire de l'humanité. Et pour autant, c'est très difficile à rendre à l'image, c'est très difficile à faire entendre, entre autres parce qu'on parle de réalités qui peuvent faire peur, ou en tout cas aujourd'hui qui nous sont complètement étrangères, comme la question de l'enfer. Il y a une espèce de paradoxe là-dedans qui est...
Un paradoxe total. Les miracles de Jésus ne suscite pas toujours la foi dans l'Évangile. Et le miracle de la danse du soleil, qui est à grande envergure, qui va être donné à 70 000 pèlerins, 70 000 personnes, ne suscite pas la foi qu'il devrait susciter aujourd'hui. Comme le Saint-Suaire, d'ailleurs. On a des points d'ancrage solides dans notre foi. Et malgré ça, le monde ne se mobilise pas. Le monde ne... reste englué dans la chair et dans le monde, et c'est ça le drame, qu'en recevant du ciel des joyaux et des cadeaux comme cela, on ne sache pas en profiter spirituellement. Moi, à l'âge de 17 ans, j'ai été bouleversé par le message de Fatima, et je peux dire, je ne serais pas où je suis aujourd'hui si j'avais pas reçu cette grâce du message de Fatima. En ayant regardé le film, je crois que ce qui est important à dire, quand on connaît bien les apparitions de Fatima, qu'on les a travaillées, et qu'on a une vie qui tourne un petit peu autour de là, c'est mon cas, quand on a vu le film et qu'on en sort, on n'a pas du tout le sentiment d'une trahison, voyez ? des apparitions de Fatima. On a évidemment une insatisfaction qui vient que du fait que voilà, on n'a pas entendu ça, on ne nous a pas présenté ça, on ne nous a pas dit ceci, on ne nous a pas dit cela. Mais on ne peut pas tout dire dans un film, mais c'est déjà beau quand il n'y a pas de trahison du message.
Alors, si vous deviez exhorter nos éditeurs à commander, alors vous nous direz, Hubert de Torcy, si on peut commander ce film en DVD ou en tout cas aller le voir au moins au cinéma.
On pourra le commander probablement à partir d'octobre. Pour l'instant, il continue de tourner à la demande des paroisses dans les salles de cinéma qui veulent bien le diffuser. Et ça sera le cas jusqu'en octobre, à partir de laquelle on sortira le DVD.
D'accord, qu'on pourra trouver dans toutes les librairies religieuses ou en allant sur le site internet de Sage Production.
De Sage Distribution. Exactement.
Sage Distribution, pardon. Oui. Donc,
on a un nouveau site maintenant qui vient de se lancer, qui s'appelle Sage Distribution, sagedistribution.com, sur lequel effectivement il est possible aussi d'organiser, par exemple, des projections en salle. Enfin, si on est un groupe constitué, une paroisse ou autre, on peut nous écrire par le biais de ce site. Voilà, puis pour tous nos films, en fait, voilà, on peut organiser des projections.
Alors,
soit dans les salles de cinéma, soit dans les salles de classe ou dans les salles paroissiales.
On redonnera les informations pratiques. Donc à la fin, Sage Distribution, sur l'actualité de ce message. Alors si on devait le résumer et si vous deviez finir pour inciter peut-être les uns les autres à se plonger dans ces apparitions et ne pas avoir peur, peut-être qu'on soit croyant, pratiquant ou très pratiquant, à se plonger dans ces apparitions de Fatima, pourquoi est-ce que c'est important de les connaître ? Je disais en introduction, en rigolant, que ça fait un peu partie du patrimoine mondial de l'Église catholique, mais c'est vrai que c'est difficile de passer à côté, et qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de ce message ?
C'est un message qui nous responsabilise sur notre mission de rédemption dans le Christ, et que le salut n'est pas quelque chose d'acquis d'emblée, sous prétexte que Dieu est miséricorde. Dieu nous sauve, mais il nous sauve pas sans nous, sans notre assentiment, et on est arbitre de notre destinée. Et c'est ça le cœur du message de Fatima. Arbitre de notre destinée personnelle, mais aussi on est missionné dans la destinée de nos frères et sœurs en humanité. Donc c'est aussi un film sur la communion des saints, c'est aussi un film sur l'appel à intercéder, à prendre en charge ceux qui n'ont pas la grâce d'avoir reçu la foi comme nous, l'espérance et l'amour parfois. Et c'est ça, je crois, qu'il fait du message de Fatima un message d'espérance.
Donc si on finit pour les détails pratiques, Hubert de Torcy, donc sagedistribution.com, on va sur le site internet si on veut organiser une projection dans une paroisse, et puis à partir d'octobre, donc on pourra trouver le DVD en vente sur ce site internet ou dans les librairies religieuses, c'est bien ça?
C'est exactement ça, et sur ce site on peut aussi s'inscrire, parce que la meilleure manière de nous soutenir, en fait, dans notre apostolat d'évangélisation par le biais du cinéma et de la vidéo, c'est de s'inscrire, parce que on peut aussi du coup prévenir les personnes. Alors on invite les gens à s'inscrire en donnant leur adresse, si bien que quand on a un film qui sort dans une salle pas très loin de chez eux, on peut les prévenir. Alors bien, voilà, à partir de mercredi prochain, vous avez La Résurrection du Christ, vous avez Lettre au Père Jacob. On va avoir quantité de films qui vont sortir dans les mois qui viennent, soit en DVD, soit en salle. On va avoir un très beau film sur Pape François fin septembre. Un beau film aussi sur Mère Teresa à l'occasion de la canonisation de Mère Teresa. Enfin, voilà. Pour rester informé de toute cette actualité, il y a vraiment actuellement une production sans précédent de films chrétiens partout dans le monde. Et voilà, notre mission, c'est de les mettre à la disposition d'un public francophone. Et bien voilà, pour rester branché, il faut pas hésiter à s'inscrire sur notre site sagedistribution.com.
Voilà, merci beaucoup. Le coup de pub est fait. Merci beaucoup à nos invités, frère Luc-Marie Perrier et Hubert de Torcy, d'être venus ce matin donc nous parler du 13e jour et du message donc des apparitions de Notre-Dame de Fatima. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.